Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h sur les ondes de campus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au programme ce soir, on revient un petit peu en arrière dans l'année, deuxième édition de la diffusion des interviews réalisées par les Trois Coups. Radio Campus Angers est partenaire des Trois Coups. Les Trois Coups, c'est l'association de théâtre de l'Université catholique de l'Ouest. Pendant plus d'une semaine, ces étudiantes et étudiants ont pu permettre à d'autres étudiantes et étudiants de produire, de mettre en scène et de jouer des pièces de théâtre diverses et variées. Ils étaient tellement motivés qu'elles ont fait des interviews pour mettre en valeur leurs joyeux camarades. On écoutera deux présentations de pièces organisées donc par l'association des Trois Coups. Les pièces ce soir, Copula et Docteur Faustrol. Vous entendrez également un reportage Pensée Locale en partenariat avec La Frappe, la Fédération des radios associatives. En Pays de la Loire, ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles. Et tout de suite, donc, on embarque avec les Trois Coups pour une immersion dans une pièce de théâtre. Celle qui vous est présentée maintenant s'appelle Copula.
Les Trois Coups. Décryptage de la 31e édition du Festival des Arts de la Scène à Angers. Sur les ondes du 103 FM.
Bonjour Louis Rouet, tu es metteur en scène et dramaturge de la pièce Copula, qui est présentée dans le cadre du festival Les Trois Coups. Et bonjour Simon Bourachaud, tu es comédien dans cette même pièce.
Bonjour.
Copula, c'est l'histoire d'un couple qui, en rentrant de vacances, se rend compte qu'ils sont arrivés à un point de fracture dans leur relation. Donc tout au long de la pièce, on est plongé dans une recherche sur ce qu'est le couple. Pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir une définition du couple dans nos vies de tous les jours aujourd'hui ?
Je pense que c'est pas nécessairement une définition du couple qui doit être reconnue et apprise pour chacun. Je pense que c'est plutôt quelque chose d'une volonté d'essayer de border le concept de couple, d'essayer de le border, que ça soit par des connaissances, que ça soit par des façons de penser, que ça soit par des expériences, mais essayer de venir y mettre du sens, de venir essayer de le comprendre de manière à pouvoir exercer en maximum de pleine conscience la vie de couple, en fait, finalement. Mais je pense que la question de définition, ça serait un petit peu trop la poser de façon trop brutale. C'est plus une idée de réussir à percevoir, finalement, la vie de couple ou le couple, c'est quelque chose qui s'éprouve plus qu'il se pense, même si à partir des éprouvés, on peut penser quelque chose.
Après, je pense que c'est quelque chose qui, plus généralement, c'est pas cantonné que au couple. Je pense que c'est quelque chose qui est présent dans toutes les relations qu'on peut avoir, que ce soit amicale, et même dans toutes les choses qu'on vit, où le fait de vivre quelque chose permet de mieux comprendre cette chose et d'après pouvoir continuer ce qu'on a entamé, ou alors à l'inverse, aller à l'encontre de ce qu'on a vécu pour changer ce qu'on en pense.
Du coup, dans Copula, on retrouve le personnage de la voix, qui est un personnage qui apparaît à certains moments pour donner des définitions autour du thème de la pièce. Pourquoi avoir inséré ce personnage et quelle est l'importance de ce personnage dans la pièce et dans ce couple qu'on suit dans Copula ?
Alors l'importance du personnage de la voix, c'est un personnage qui est assez essentiel au niveau d'abord de la rythmicité. Parce que la pièce, elle est construite sur plusieurs axes et sur plusieurs profondeurs. Et le personnage de la voix permet justement de venir créer une rythmicité, un espace, un lieu dans lequel le spectateur peut se retrouver en tant que seulement spectateur. Et non plus en tant que partie prenante de la pièce, car la voix qui joue de façon dénuée d'émotions, alors il y a des intentions pour autant, mais en tout cas sont des émotions fixes, sont des émotions qui viennent trop mettre en relief ce qui pourrait se passer pour ce personnage-là, permet justement au spectateur un temps de pause qui lui permet de lui se dire ce que j'en suis en train de voir, quel écho ça a en moi. qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi. Ça, c'est vraiment dans cette première idée de profondeur du spectateur. Ensuite, la couche suivante, c'est ce que ça apporte réellement à la pièce en tant qu'espace scénique. Ce personnage-là, donc du coup, ou de cette rythmicité, il va vraiment apporter une texture particulière à la pièce. Il va lui apporter des moments où justement, même les personnages peuvent se poser, où les personnages peuvent s'entendre, où les personnages peuvent finalement se retrouver et jouer autour de l'espace que la voix propose. Et enfin, dans un dernier temps, la dernière couche, c'est la couche textuelle, c'est-à-dire que c'est vraiment du texte important ce que la voix est en train de dire. C'est le personnage, pas central, mais en tout cas, c'est, comme je le disais au départ, un personnage qui fait le lien entre les personnages de la pièce et le spectateur. C'est un personnage finalement qui bouge pas. Là où les spectateurs racontent juste une histoire comme les autres, une histoire qui est en train de se passer, quelque chose que toute chose de la fiction vient se saisir, la voix, elle, vient poser quelque chose qui ne bouge pas, qui reste un petit peu immuable dans la pièce, et en venant du coup à certains moments donnés intervenir sur les mots sur lesquels elle intervient, elle vient justement, comme je disais tout à l'heure, ça le rejoint, placer un sens bien précis sur les mots qu'ils sont en train de dire. Et au niveau textuel, ça permet d'avoir une profondeur beaucoup plus intéressante sur l'impact que certains mots que les personnages vont utiliser vont donner au spectateur. Et ce personnage du coup de la voix vient vraiment aussi nous rappeler qui qu'on soit au moment du spectacle, que les mots qu'on emploie ont un sens, une origine, une étymologie, et qu'elle est très importante à prendre en considération, parce que les mots qu'on emploie, qui peuvent paraître très anodins la plupart du temps, sont des mots qui ont des répercussions qui sont bien plus lointaines dans les sources qu'elles ont et dans les utilisations que chacun peut en faire. Et revenir à cette espèce de légifération de l'étymologie, ou de légifération du sens, de la sémantique réelle du mot qu'on est en train d'employer, permet de rajouter encore plus d'impact, peut-être parfois même aux émotions que le personnage joue sur ces mots-là en question.
C'est le seul personnage qui, en fait, sans prendre parti pour l'un des côtés du couple ou quelques personnages, c'est le seul personnage qui va permettre au public de dire « Oui, ok, là, c'est ça, c'est posé. » On ne peut pas questionner ce que dit la voix. On ne peut pas prendre parti non plus sur ce qu'elle dit, parce que c'est des choses qui sont implantées dans notre langage et qui sont vraies. Et chagrin, c'est ça. Alors oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on l'a sur cette pièce-là.
Et par exemple, si je reprends ton exemple, le mot chagrin qui est utilisé à un moment donné dans la pièce, qui est retravaillé à partir, enfin que la voix retravaille en fait, qu'elle vient resémantiser quelque part, parce que le chagrin, on a une vision plus ou moins importante, c'est quelque chose de plus ou moins grave selon à qui ça arrive, selon ce qui se passe, selon les raisons pour lesquelles on est atteint par le chagrin. Le chagrin, par exemple, c'est un mot qui vient de plusieurs origines, mais qui vient notamment de chancre. C'est ce qui ronge. C'est-à-dire que le chagrin n'est pas quelque chose de si passager que ça, et c'est pas un mot qu'on peut employer finalement sur des situations si légères. Le chagrin est un mot fort qui est quelque chose qui vient ronger. Le chancre, c'est quelque chose qui est quasiment, enfin, oppressif et même corrosif. Donc ça permet justement de remettre en tension ça, remettre en tension plein de choses qui peuvent se dire sans se dire, à travers juste le sens d'un mot et pas simplement son utilisation au sein d'une phrase.
Et justement, puisqu'on parle de mots, donc toi, tu as écrit la pièce, tu l'as aussi mise en scène, mais tu l'as aussi écrite. Pourquoi ? Comment tu t'es inspiré ? De quoi tu t'es inspiré d'un vécu ? Et pourquoi avoir parlé de ce thème-là ?
J'avais déjà eu l'occasion de monter une pièce précédemment dans le cadre des trois coups, justement, qui offre cette chance-là, où j'avais voulu mettre en relief justement plutôt les rapports familiaux, ce qui peut se passer dans la famille, voilà, les différents ressentis que ça peut générer, notamment là c'était une situation de deuil, et de en fait mettre ça au travail, de voir voilà comment on peut mettre ça en relief, comment on peut faire vivre. Et rapidement après ça, je me suis dit, la chose suivante sur laquelle j'aimerais travailler, c'est le couple, parce que finalement, déjà parler de famille sans parler de couple, c'est très compliqué, parce que les familles sont créées par des couples, sont actées par des couples, et sont nécessairement construites par des couples. Donc la question du couple était très importante, et j'avais vraiment envie de venir le travailler, de venir le mettre en relief, de me dire voilà comment on peut réussir à en donner quelque chose. Après, comme toujours dans tout processus d'écriture, je pense, en tout cas moi en ce qui me concerne, t'as un premier temps où tu juste y vas, t'as une idée vague de ce dont t'as envie de parler ou de ce que t'as envie de donner, mais tu sais pas trop comment ça va partir, et au fur et à mesure ça vient, ça suit, l'histoire se raconte malgré toi. Alors qu'elle pioche dans des vécus intimes sans que t'en aies l'impression, qu'elle pioche dans un vécu civilisationnel ou culturel dans lequel on vient s'enrichir et on vient s'ancrer, quoi qu'il arrive, le fil se déroule tout seul. Et du coup, effectivement, parler du couple sans essayer de parler quelque chose de personnel et d'intime, parce que bon, ça peut être intéressant sur certaines situations, mais c'était pas du tout le projet. C'était réussir à mettre en relief et en tension c'est une notion de couple dans une situation bien particulière, avec des personnages bien particuliers. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'essayer de pouvoir donner de la voix à plusieurs façons de penser ou de vivre le couple différent, sans tomber dans des clichés un petit peu grotesques.
Copula, c'est une pièce qui est très contemporaine, que ce soit dans l'écriture, du coup, la scénographie, aussi les personnages. Est-ce que toi, Simon, en tant que comédien, tu t'es reconnu dans les personnages? Et comment t'as pu aborder le jeu de cette pièce?
Je pense qu'on se reconnaît pas dans un personnage. Je pense que ce soit les spectateurs ou même les comédiens, on a tous pioché un peu dans différents personnages qui nous résument plus nous, parce que, comme l'a dit Louis, c'est pas un truc autobiographique, ou c'est pas une pièce qu'il a écrite pour des personnes. C'est-à-dire que moi, le personnage d'Arthur que j'interprète, c'est pas moi. Donc je m'identifie pas à ce personnage-là. Néanmoins, il y a des parties de chez Arthur auxquelles je peux m'identifier, mais comme il y a des parties chez lui auxquelles je peux m'identifier également, j'ai essayé d'être le plus compréhensible sur le personnage d'Arthur. Du coup, c'est passé par des longs moments de discussion et de débat avec Louis, avec les autres comédiens sur qui était ce personnage réellement, comment lui vivait le couple, comment il vivait sa relation avec sa femme, avec ses enfants, pour essayer de comprendre le plus possible ce que lui pouvait ressentir. Et après, c'est passé aussi beaucoup par le corps. À travers les émotions qu'il pouvait ressentir, j'ai essayé de ressentir comment il les vivait physiquement, et donc que ça changeait, même si c'était des changements minimales, hein, juste au niveau de la respiration, que ça pouvait changer la manière dont moi, Simon, j'interprétais Arthur. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même posture, qu'on n'a pas la même respiration, qu'on n'a pas les mêmes choses. Et c'est un peu comme ça que j'ai essayé de le faire, et en essayant d'être le plus précis et juste possible. J'ai essayé de ne pas rentrer dans un cliché ou dans un surjeu chez ce personnage-là. J'ai essayé d'être le plus précis possible.
D'accord. Merci beaucoup, Louis et Simon.
Pas de soucis.
Merci.
C'était Les Trois Coups. Réécoutez l'émission sur radiocampusangers.com.
Et on se laisse en musique à bord du pédalo. On écoute Turn Me Around de Strata. 18h17 sur les ondes du 103 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Angers à bord du Pédalo, l'émission d'actu estivale du 103 FM. Je vous propose maintenant d'écouter une interview de l'équipe qui a réalisé la pièce Docteur Faustrol, une pièce jouée à l'occasion du festival Les Trois Coups, organisé par l'association des Trois Coups des étudiants de l'Université catholique de l'Ouest.
Les Trois Coups. Décryptage de la 31e édition du Festival des Arts de la Seine à Angers. Sur les ondes du 103 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des Trois Coups. Aujourd'hui, on accueille Pierre Piveteau.
Bonjour.
Qui est metteur en scène du coup de la pièce Docteur Faustrol pour le Festival des Trois Coups. Donc Docteur Faustrol, c'est une pièce qu'on retrouvera le 10, le 27 mars et le 6 avril à 20h en amphithéâtre Bazin à l'Université catholique de l'Ouest. Donc c'est une adaptation du roman d'Alfred Jarry, Gestes et opinions du Docteur Faustrol, pataphysicien. Nous suivons donc le voyage d'un docteur de la science des solutions magiques vers la préfecture de Paris, accompagné de son singe Bosse de Nage et d'un huissier, mais qui s'éternise sur des îles fantasmagoriques. Donc le texte et la pièce sont plutôt originales. C'est une langue qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Il y a une certaine richesse du vocabulaire et la tournure des phrases est particulière, on peut le dire.
Oui, oui, oui.
Est-ce que tu peux nous lire ou nous réciter quelques répliques pour qu'on se rende compte un petit peu du texte ?
Oui, tout à fait. Je cherche des répliques 5 secondes. Enfin, déjà, je peux commencer par mes répliques. Effectivement, c'est un texte qui est particulier, que Jarry écrit en français, mais il aime bien faire des phrases qui sont complexes et dire des choses... Enfin, ça a un lien avec le texte, on va en reparler, mais typiquement, si je devais donner une des phrases de mon propre texte, ça serait à un moment donné, on m'interroge sur mon régime alimentaire, le régime alimentaire de mon personnage, et je réponds « Je me sustente exclusivement d'eau claire et de pipi de rat. J'avais jadis associé cette substance au pain et au fromage de Melun, mais je suis arrivé à supprimer la superfétatoire vanité de ces condiments solides. J'hume l'eau d'une carafe d'or amincie jusqu'à la longueur d'onde de la lumière verte, et servi avec elle sur un plateau de fourrure et non de pelleterie, car je me veux raffiné. Du renard fraîchement écorché d'un ivrogne de saison, bien égal au 20e du poids. Un luxe n'est pas donné à plusieurs, et j'entretiens à grands frais des rats et dans des salles pavées d'entonnoirs tout un sérail d'ivrognes dont j'imite les discours. » Donc là, c'est du texte de Jarry sur ce livre en particulier.
Et est-ce que tu as choisi cette pièce pour le texte et pour la façon dont elle est écrite ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. C'est un texte que j'ai choisi effectivement pour ces raisons, mais pas uniquement à cause du... Si je devais refaire la... Comment est-ce que c'est arrivé ? On est en 2016-2017, je me retrouve, donc je vagabonde sur Internet, qui est un peu comme ma deuxième maison, je suis sur une communauté d'écriture sur laquelle je bouge beaucoup et je vagabonde beaucoup, et en y participant, à un moment donné, je tombe sur quelque chose qui reprend des poncifs, enfin des démos, des termes qui ne sont pas du tout utilisés dans leur sens original, qui sont la pataphysique, et je me demande qu'est-ce que c'est que la pataphysique ? Je cherche et je vois que c'est un bouquin d'Alfred Jarry, que je commande. Alors à l'époque, maintenant j'ai compris que, enfin j'ai cru comprendre que c'était différent. Il est désormais disponible pour mon plus grand plaisir, mais à l'époque il fallait aller le chercher de l'enfer de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire l'endroit où on met tous les livres qui sont pas interdits, mais qui sont hors date en termes de propos et en termes de et sur lesquels il faut avoir une réserve. Du coup, je me demande pourquoi est-ce que ce livre-là de Jarry spécifiquement se retrouve ici. Tout de suite, ça attise un peu la curiosité, donc je le fais réimprimer de Londres, je l'amène jusqu'à chez moi, je le lis une première fois, et je me prends une claque assez monumentale. Et je suis, ça fait partie des quelques livres qui sont sur mes étagères, dans ceux où le texte m'a vraiment mis dans des états d'émotion que je comprenais pas forcément. Donc je le pose pendant un moment, et ce faisant, j'étais au lycée, je rentre en licence art du spectacle à la Cato, et au bout de 2 ans, je me redécide à lire le livre. Et en fait, je me rends compte qu'avec l'expérience que j'ai acquise et les différentes analyses qu'on a pu faire de spectacle au sein de la licence, voilà, ça a forgé un petit peu mon regard théâtral, et en relisant, je vois, soudainement, je comprends mieux le texte. Je vois des scènes qui se dessinent dans ma tête, et d'un seul coup, ça m'intéresse. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen, pour ma propre compréhension du texte, que j'en fasse une adaptation théâtrale ? Donc j'en fais trois, une de 6 heures, une qui est un peu plus courte, et celle qui est actuellement jouée, qui est beaucoup plus courte, de 2 heures, fort heureusement. Et on se retrouve dans cet état où j'ai mes adaptations, et troisième année où je participe aux Trois Coups, j'ai déjà mis en scène l'année précédente, et je me dis, est-ce que j'irai pas au bout de la démarche et me dire, est-ce que ce texte qui désormais j'ai compris beaucoup mieux en l'adaptant, en faisant des dialogues et en le mettant sur scène, est-ce que si je le mets concrètement directement sur scène, il va pas encore plus m'apparaître clair ? et potentiellement comme des filles, ensuite le rendre regardable, intéressant pour le public, le faire une médiation autour de ce texte-là qui à lire est beaucoup trop inaccessible pour une bonne partie de la population, sans aucun jugement quelconque, mais c'est une lecture qui est ardue et qui a des choses intéressantes à dire, mais qui le dit difficilement. Et je trouvais ça dommage.
Mais justement, du coup, comment on met en scène un texte comme ça, qui peut paraître un peu compliqué techniquement sur scène, comment on apporte en fait l'imaginaire comme ça sur scène?
Oui, c'est compliqué, c'est très compliqué, parce que, enfin voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir fait le travail d'adaptation, c'est que j'ai pu voir où est-ce qu'on pouvait en faire quelque chose de théâtral, passer du roman au dramatique. Et l'histoire de la pièce se constitue beaucoup autour de tableaux, énormément de tableaux, avec une introduction qui ensuite emmène vers tout un voyage et ensuite une conclusion du voyage. Et à partir de là, comment est-ce qu'on amène l'imaginaire sur scène? C'est beaucoup dans la constitution de ces tableaux, en faire quelque chose de manière très, 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 très vivace, avec les lumières, avec le son, avec les décors. Et en même temps, comme on est aux trois coups, il faut savoir faire la part des choses. Et on n'a pas le budget d'une production de Broadway, même si pour un texte comme celui-là, on a envie d'aller extrêmement loin et de montrer des choses magnifiques, tellement le texte donne des paysages qui sont peu communs à voir. Et qui sont déjà, enfin, même pas peu communs à voir, c'est très difficile d'imaginer les choses. Ça assemble les mots de manière très, très peu intuitive, en fait.
Et comment tu décrirais du coup un peu ces paysages dont tu parles dans la pièce? Si tu veux nous en dire un peu sans trop nous dévoiler
Je peux. La pièce. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple finalement de récupérer le texte et de lire le texte tel quel. Si je prends l'un des premiers paysages qui est décrit, qui sont décrits par un type de personnage que j'ai ajouté qui pour le mettre en voix j'ai été sollicité en géloquence notamment pour faire de la mise en voix et créer des voix off pour ce type de personnage là. Typiquement, le premier paysage dit un phare bâtard dans la tempête, dit Corbière. Un phare lève le doigt pour signifier de loin la place du salut, de la vérité et du beau. Mais pour les taupes et vous-même, Pamufle, un phare est aussi invisible qu'imperceptible à la 10 000e période sonore ou les rayons infrarouges à la clarté desquels j'ai écrit ce livre. Le phare de l'île de Brun est un phare obscur, souterrain et cloacal, comme après avoir trop regardé le soleil. Des vagues ni des ferlants points, on ne s'y guide non plus par le bruit. Ce genre de phrases-là, qui sont très... qui décrivent un paysage qu'on reconnaît comme étant maritime, mais qui a une certaine qualité fantastique, typiquement.
Et du coup, t'as ajouté de la danse dans ce texte. Il me semble que c'était pas de base dans l'écriture du texte, mais pourquoi t'as fait ce choix, du coup, de mettre la danse sur scène au service du texte?
Oui, la danse au service du texte, c'était un choix qui a été animé par deux choses. La première chose étant que dans le cadre hors de la pièce, dans le cadre purement de Luco, c'est un truc que j'aime bien faire dans mes mises en scène, que j'avais déjà tenté de faire l'année dernière en collaborant avec un étudiant de musicologie pour les musiques, de faire participer des gens et de pas de révéler des talents, parce que c'est pas le but non plus. Enfin, c'est pas genre je me vois pas comme un révélateur de talent, mais de permettre à des gens d'avoir un cadre pour créer et pour développer des choses. Et c'est un texte qui se prête énormément à ça, tellement il y a de tableaux à faire. L'envie initiale et idéale, ça aurait été aussi de collaborer avec des plasticiens pour réaliser une partie des décors. Ça a été fait finalement, mais beaucoup plus dans les décors mobiles que dans... J'aurais voulu transmettre les différents textes des tableaux aux plasticiens pour qu'ils nous pondent ce que ça leur inspire et que derrière ce soit projeté hors scène, ou voire même en faire un acte de médiation hors, en mettre dans Bazin un petit peu partout. Et finalement, la danse, en étant en art du spectacle, c'est quelque chose qui s'est aussi imposé à moi parce que j'en ai vu, j'en ai fait. On a fait un workshop, on a fait plusieurs workshops de danse et qui nous ont apporté des techniques et des images que je trouvais intéressantes pour la pièce, qui sont réutilisées, notamment tout ce qui est du travail de Noé Soulier qu'on a tenté un petit peu de pomper à droite à gauche, qui fait un très bon travail, cela dit. Et finalement, la danse a été là aussi pour pallier à ce manque d'illustration visible et plastique pour ce qui est de, par exemple, on a un signe à un moment donné sur scène, et bien un signe, on a un solo qui représente le signe, on a un combat dans une église, et à partir de là, comment est-ce que ce combat qui est contre un prêtre et un monstre issu des péchés de tous ces fidèles rassemblés se déploie dans quelque chose de très 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 gravure, très théâtre buto. enfin très très dense et enfin danse buto plus que théâtre buto. Et on a tenté beaucoup d'expérimenter autour de ça pour mélanger les arts énormément, pour faire du transdisciplinaire et montrer des belles choses, pour pallier à ce texte qui des fois, et on a eu ces retours-là à la première, mais du coup qui, ça a marché, on est très content de ça. Le texte est des fois énormément dur à... Enfin, on rentre difficilement dedans, et à partir de là, j'ai des gens qui me disent « J'ai vraiment rien compris, mais fort heureusement, j'ai passé un bon moment, quoi, parce qu'il y avait du chant, il y avait de la danse, il y avait de la musique, et c'était beau, quoi, c'était juste des beaux moments. Donc voilà, principalement. »
Merci beaucoup à toi, Pierre. Donc, on peut retrouver Docteur Faustrol le 10 et le 27 mars à Luco, et aussi le 6 avril en amphithéâtre Bazin à 20h.
Tout à fait.
C'était Les Trois Coups. Réécoutez l'émission sur radiocampusangers.com.
Voilà, mars, avril, évidemment, je vous avais prévenu, sacré retour en arrière. Ceci étant dit, un très très beau projet que Radio Campus Angers soutient à 100%. Et petite virgule avant la suite.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et alors, messieurs, dames, figurez-vous que changement de programme, à la base, on était censé écouter un reportage fait par nos amis mayennais. Bon, finalement, changement de programme, avec nous dans les studios qui débarquent telle une bombe, Hermine. Salut Hermine.
Salut Hugo.
On n'avait pas calé ensemble le fait que tu venais, et finalement t'es là. Et quoi de plus cher à mon cœur que la chronique d'Hermine, où tu vas encore nous dresser un portrait poétique et inspirant. Et ce soir, tu nous présentes un guide de haute montagne.
C'était en mai dernier, à l'heure du déjeuner, dans une vallée encaissée entre les parois monumentales des montagnes, dans une petite ville où se côtoient les familles en vacances, les passionnés de sport, les saisonniers affairés, et ceux qui ne sont pas tout à fait à leur aise à une altitude si basse. Nous déjeunons aujourd'hui avec Bruno, un guide de haute montagne. Récit d'une rencontre au sommet, si je puis dire. Sur la terrasse d'un restaurant, quatre plus ou moins familiers s'attablent à ses côtés. Le bois robuste accueille les plats, tandis qu'une sorte de discussion s'installe. Hasardeuse d'abord, chacun doit trouver son langage. Celui de Bruno est plutôt énigmatique. Il y a dans ses paroles quelque chose de fuyant. Je ne comprends pas tout, mais il semble que ce genre d'homme n'est pas fait du même bois que le reste de la tablée. Un guide, c'est un bien grand mot, une superbe ambition. Accompagner les hésitants sur les hauteurs, leur montrer le chemin, les aider à le gravir, décider s'il faut continuer ou bien rebrousser chemin, avertir des dangers, rassurer les inquiets, encourager les plus faibles, assurer chaque pas, puis inviter à lever les yeux et nommer les sommets. Haute tâche que celle du guide. Il est celui qui accompagne au seuil d'un milieu hostile, et si les conditions le permettent, si tous les paramètres étudiés semblent propices, il est celui qui trace le chemin dans un monde inhospitalier.
C'est une belle fiche de poste, et est-ce qu'il aime, lui, ce métier ?
C'est là que se trouve tout le paradoxe. Pour être guide, il faut être attiré par les hauteurs, avoir soif des sommets, et guetter la moindre ouverture pour se jeter vers les cimes. Le risque est grand, toujours. Les alpinistes marchent sans cesse sur une ligne de crête où le péril et la joie sont étroitement liés. Mais un guide, ce n'est pas simplement un alpiniste. Il ne part pas seul, ne décide pas pour lui-même, mais conduit d'autres avec lui. Il faut gravir et guider, mener et accompagner. Lorsque Bruno parle, l'antagonisme affleure. Il a le verbe énigmatique des grands solitaires et la gouaille de ceux qui cherchent désespérément à se lier à d'autres. Cela donne quelque chose de surprenant, assez peu compréhensible. Le langage de Bruno est une énigme. Il parle et vagabonde d'un sujet à l'autre, mais semble retenir le fond de sa pensée. Peut-être que son avis se passe de mots. Peut-être que sur ce plancher des vaches bien trop stable, les mots qu'il voudrait dire ne seraient pas compris. Peut-être cet exil loin des sommets fait-il de lui un étranger. Je ne sais pas. C'est un homme comme tout le monde, dont le travail est loin d'être ordinaire. Un homme arrivé dans la profession par hasard, et peut-être par envie. Professeur de sport d'abord, puis un peu de grimpe, et le voilà guide. Ça paraît simple, ça ne l'est pas. Car quand il faut expliquer la montagne, il n'a plus de mots. Une blague pour remplir le vide et faire oublier la question. La montagne ne s'explique pas. Elle se vit. Ceux qui la gravissent ne peuvent dire la stupéfaction du sommet, mais elle reste gravée entre les rides de leur front. C'est un grand mystère. Un mystère qui semble avoir pris possession de ceux qui tentent de l'explorer. Le guide est celui qui montre le chemin, et pourtant ce qui perce davantage dans la voix de Bruno, c'est une grande perdition, comme si le vide qui sépare les aiguilles des fonds de vallée s'était engouffré tout entier en lui. Il veut être assuré, il semble déboussolé. Il voudrait dégager, je crois, la solidité de ceux qui ont plus d'une fois frôlé la mort sans trembler. Et pourtant, il ne peut cacher une hésitation constante. Difficilement lisible pour les convives qui l'écoutent attentivement, Bruno dégage pourtant une certitude. Son attitude tout entière la souligne. Il est un chercheur. Il cherche sans cesse, sans se lasser et sans rien trouver. Il cherche, ne sait rien. Il prétend savoir, rit trop fort, capitule et poursuit sa recherche. Visage tanné par l'âpre cime, regard plissé pour ne pas trop se montrer, main sculptée par la roche et cheveux grisonnants d'incertitude, Bruno cherche quelque chose. Le regard est aveugle, mais il est persistant. Ceux qui, comme lui, descendent d'en haut, affichent une même ride sur le front, une inquiétude qui les pousse à gravir à nouveau les pentes glacées pour chercher une réponse à la question qui les laisse intranquilles. Dans ce monde du silence, les mots échouent. Et la plus belle ascension serait peut-être celle de l'humilité. La victoire revient à ceux qui capitulent, se savent faibles et perdus et ne cessent de chercher.
Merci beaucoup, Hermine, pour ce magnifique portrait. Tu aimes la montagne, toi ?
J'aime bien quelqu'un qui aime la montagne.
Écoute, j'ai hâte d'aller à la rencontre de Bruno. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de le croiser.
Peut-être. Il faut le faire venir dans un pays très plat. Ça va être difficile.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain à bord du pédalo. Et d'ici là, n'oubliez pas, Hermine.
Les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.